France Bleu Creuse, le dossier du jour, Josiane Perron.
Bonjour à tous et à toutes. Une fois de temps à autre, pour ce dossier du jour, nous nous intéressons à un livre. Et c'est le cas pour aujourd'hui, un livre témoignage, Tel que tu me vois. Ou autre titre, l'histoire d'une fille qui aurait dû être un garçon. Je vous propose d'accueillir tout de suite l'auteur qui nous a rejoint sur France Bleu Creuse.
Le dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain, fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Une rencontre pour ce matin sur France Bleu Creuse, une rencontre avec Élodie Lenoir, une rencontre avec Élodie qui va nous amener également à plonger dans son livre « L'histoire d'une fille qui aurait dû être un garçon », autre titre Tel que tu me vois. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Alors on ne se voit pas puisque nous avons le plaisir au moins de vous avoir par téléphone. Faisons connaissance avec vous Élodie, qui êtes-vous, quel travail faites-vous?
Oui, donc en fait je m'appelle Élodie, j'ai 29 ans, je suis chef de projet, donc je travaille dans le 91, dans l'Essonne, donc assez loin. Et du coup, mon travail c'est d'organiser les projets de la société et puis projet informatique ou projet logistique et de m'arranger pour que tout se passe bien.
Des passions dans la vie?
Oui, beaucoup de passions. J'aime beaucoup la danse, j'aime bien les jeux vidéo et puis là je commence à découvrir la fauconnerie. c'est à peu près ce que j'aime bien pour le moment.
Tel que tu me vois, l'histoire d'une fille qui aurait dû être un garçon. Il s'est porté au début de votre communiqué de presse, mais je le confirme, un récit émouvant. Vous pouvez nous raconter votre histoire, Élodie?
Donc en fait, mon histoire, c'est l'histoire d'une personne à peu près normale au début de sa vie qui en fait va apprendre qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle apprend ça vers ses 15 ans. Bon, je peux parler de moi au jeu, je pense. Et du coup, j'ai découvert à 15 ans que je ne pouvais pas avoir d'enfant parce que je n'avais pas d'utérus en fait. Et en creusant un petit peu plus, en allant un petit peu plus loin, en fait, j'ai fini par apprendre que j'avais un karyotype XY et que c'était la raison pour laquelle je n'avais pas d'utérus.
Un syndrome plutôt rare?
D'autant plus rare que en temps normal, XY, je n'avais rien à faire du côté des filles, en fait. Et pourtant, c'était bien ce que j'étais. Donc oui, c'est quelque chose d'assez rare. C'est un syndrome qui s'appelle le syndrome de résistance aux androgènes et qui touche une fille sur une naissance sur 100 000 en fait. Donc c'est quelque chose de très rare.
Pour que tout le monde comprenne bien, en fait, vous êtes née avec un patrimoine génétique d'un homme, c'est ça? Mais
oui.
Votre corps s'est développé comme celui d'une femme.
Tout à fait. En fait, le syndrome, il fonctionne, il existe en fait parce que il crée une insensibilité du corps par rapport à des hormones masculines, telles que par exemple la testostérone. Et du coup, en fait, le corps produit cette hormone, comme le corps de n'importe quel garçon par exemple, et femme d'ailleurs, mais en fait il ne le reçoit pas. Donc en fait le corps il se développe sans aucune testostérone. Donc sans testostérone on ne peut pas être un garçon en fait. Donc l'enfant qui naît en fait, puisque tout ça se passe in utero bien sûr, donc l'enfant qui naît en fait s'est développé pendant 9 mois comme une petite fille, alors qu'il aurait dû se développer comme un petit garçon.
Vous nous précisez que vous n'avez appris la vérité qu'à l'âge de 15 ans. Vous n'avez pas eu avant des questions, des doutes?
En fait, non. Avant ça, j'avais pas vraiment de questions ni de doutes. J'avais aucune raison de douter, par exemple, de mon identité sexuelle, puisque j'étais comme toutes mes copines, toutes les autres filles. Par contre, c'est vrai qu'à l'âge de la puberté, en fait, puisque 15 ans, ça reste un petit peu tard déjà pour avoir ces règles, mais dès l'âge de 12 ans, on va dire, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi est-ce que mes amis commençaient à avoir leurs règles et pas moi? Et c'est vrai que 13, 14 ans, ça a été un âge où j'attendais plus qu'autre chose. Et 15 ans, ça devenait quand même un petit peu inquiétant. Donc, à part ça, en fait, il n'y avait pas d'autres. J'avais pas d'autres raisons de m'inquiéter ou quoi que ce soit.
Vous avez posé la question, par exemple, à votre maman?
Non, non, j'ai pas posé la question directement à mes parents parce que c'était un sujet. J'avais pas vraiment de raison de m'inquiéter par ailleurs, donc je me disais souvent en me rassurant que ça allait arriver, voilà, chaque chose allait arriver en son temps. À 15 ans, c'est pas non plus désespéré, je dirais, mais je me posais quand même la question. Donc c'est vrai que c'est un sujet que j'aurais peut-être aimé aborder avec mes parents. On était relativement ouverts, mais bon, ça n'est pas venu parce que j'osais pas vraiment aborder cette question-là. Et puis encore une fois, j'avais pas non plus trop de raisons de m'inquiéter. Je me posais juste la question et j'attendais avec impatience, mais sans inquiétude. Je me disais, ça va arriver. À côté de ça, en plus, comme j'avais un an d'avance par rapport à mes amis, j'avais toujours ce petit prétexte, en fait. Ah bah oui, mais moi, j'ai un an d'avance, donc forcément, ça va arriver après, quoi.
Et après, justement, vous restez avec nous, Élodie. Nous allons poursuivre cette conversation dans un instant pour entrer un peu plus dans votre livre « Tel que tu me vois », l'histoire d'une fille qui aurait dû être un garçon. À tout de suite, Élodie, en vous souhaitant à tous et à toutes une très belle matinée à l'écoute de France Bleu Creuse.
J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Ouh, ouh, ouh. J'avais perdu l'habitude. Sur la route toute la fin de journée, je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la fin de journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. Car j'étais sur la route toute la sainte journée.
Sur la route de Palmas.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Sur notre route de la matinée, notre invitée du jour, Élodie Lenoir, pour son livre « Tel que tu me vois » aux éditions de La Martinière. L'histoire d'une fille qui aurait dû être un garçon. Alors Élodie, vous avez découvert à l'âge de 15 ans le syndrome dont vous étiez atteinte, à savoir que vous êtes née avec le patrimoine génétique d'un homme, mais que votre corps s'est développé comme celui d'une femme. Et alors, vos parents dans tout cela, Élodie, ils étaient au courant ?
En fait, mes parents, eux, de leur côté, savaient, connaissaient l'existence de ce syndrome. Ils en avaient déjà été informés quand nous étions, enfin quand moi et ma sœur étions petites. Du coup, ils étaient au courant. Et en fait, ils ont attendu une certaine maturité de notre part et que peut-être la question se pose pour nous annoncer. Donc, il s'est rien passé spécialement dans ma vie à l'âge de ces 15 ans. C'est juste que c'est l'âge auquel mes parents avaient décidé en fait qu'ils allaient lever le voile en fait sur cette vérité-là. Et puis nous en informer tout simplement. En tout cas, nous informer déjà dans un premier temps que nous étions stériles, que nous n'avions pas d'utérus en fait. Donc,
votre sœur a le même syndrome, hein ?
Voilà, en fait, ma sœur a le même syndrome. Et c'est à sa naissance en fait que on s'en est aperçu.
Une fois qu'on le sait, Élodie, qu'est-ce qu'on se dit ?
On se dit pour comme moi. ce qui vient très vite, c'est qui voudra de moi, quoi.
Oui, bien sûr.
Quand on a 15 ans, parce que c'était une question, à cette époque-là, mes préoccupations, c'était les préoccupations d'une personne de 15 ans, donc j'avais mes études, j'avais mon sport, et puis il commençait à y avoir les garçons, quoi. Je commençais à poser la question, est-ce que je vais avoir un petit ami ou pas, voilà. Et du coup, c'est arrivé en plein dans cette période-là où je commençais à me poser la question, tiens, j'aimerais bien avoir un petit copain, tout ça. Et du coup, je me suis dit, maintenant, avec ça, qui voudra de moi, quoi.
On a peur d'être rejeté par les garçons.
Oui, ça a été... j'avais très peur d'être rejetée par les garçons. J'étais déjà pas une personne qui avait particulièrement confiance en elle étant enfant, étant ado. J'avais pas particulièrement confiance en moi. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. C'est un peu normal à cette période, mais... D'autant plus que mes règles ne venaient pas, donc ça ne m'aidait pas. Mais c'était encore pire. J'étais sûre qu'on allait me rejeter. Je me sentais plus féminine en fait, dans le sens où c'est quand même un stade en fait qui permet à un moment donné de se sentir femme en fait, je suppose. Je ne sais pas parce que je l'ai jamais vécu, mais mais en fait, moi j'attendais de ne plus être une petite fille, j'attendais de ne plus être une enfant, j'attendais de me considérer comme une femme en fait à partir du moment où j'aurais mes règles. Et en fait, ça n'est jamais arrivé, donc j'étais pas du tout confiante par rapport aux garçons.
Alors comment ça s'est passé justement avec les garçons, on va dire à partir de vos 15 ans, mais les premières années qui ont suivi, ça s'est passé comment ?
Je pense que j'ai pas trop à me plaindre à ce sujet, puisqu'en fait... J'ai quand même rencontré un garçon qui est finalement devenu mon mari maintenant, donc je pense que j'ai pas trop à me plaindre à ce sujet, mais ça n'a pas été forcément évident, parce que malgré toute la confiance et tout qu'on avait, à un moment donné on a quand même eu un petit problème. C'est que on n'a pas vraiment réussi à avoir de rapport sexuel en fait au début. Et du coup, en fait, ça a encore rajouté mon manque de confiance en moi par rapport à ça. Donc voilà.
Et je suppose aussi qu'il y a les visites chez les médecins, non ?
Oui, il y en a eu quelques-unes. Déjà dans un premier temps, suite à l'annonce, en fait, quand mes parents nous ont fait cette annonce et qu'on avait 15 ans, ils avaient déjà tous les résultats en ce qui concernait ma sœur, en fait. Par contre, moi, il y avait quand même ce soupçon, parce que les médecins leur avaient dit, plus tard, il faudra qu'on fasse, quand même qu'on vérifie si tout va bien pour la plus grande, donc pour moi. Et donc, mes parents avaient un petit peu attendu en se disant, je pense que c'est ce qu'ils se sont dit, si ces règles arrivent, tant mieux. Ouais. Sinon, il faudra qu'on se pose la question et qu'on fasse l'examen. Du coup, à 15 ans, mes règles n'arrivaient toujours pas. Donc, ils m'ont dit, on va aller faire cet examen, on va aller faire cette échographie pour voir s'il y a ou pas un utérus, en fait. Et du coup, la première visite chez le médecin, ça a été pour ça. Ça a été une échographie pour confirmer ou pas qu'il y ait un utérus, quoi. Donc, forcément, ça a confirmé qu'il n'y en avait pas. Donc ça a été le premier rendez-vous. Le second, ça a été un rendez-vous plus d'informations. Pour avoir des informations sur le syndrome. Ça, c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, il y a eu d'autres rendez-vous bien après, parce que moi, je me posais beaucoup de questions. Parce que mine de rien, en fait, les informations que j'ai eues à ce moment-là, ce que j'en ai compris, malheureusement, je peux pas dire exactement ce qu'on m'a dit, parce qu'en fait, j'étais dans un tel état que je me suis pas rendu compte peut-être de tout, j'ai pas pris la connaissance de pas réaliser peut-être tout ce qu'on me disait. Le plus grave que j'avais compris, en tout cas moi, c'est que je pouvais pas avoir d'enfant. Par contre, j'avais absolument rien compris à cette histoire de XY, d'intersexuation. Je pense pas que ces mots étaient prononcés parce que ça m'aurait peut-être choquée. Mais du coup, à un moment donné, je me suis quand même posé des questions. Ben voilà, mais bon, très bien, j'ai pas d'utérus, je peux pas avoir d'enfant. Mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi est-ce que je peux pas être comme tout le monde? Donc à un moment donné, la question se pose, et ça c'est arrivé assez longtemps après quand même. Mais bon, elle se posait d'autant plus que j'avais maintenant mon copain et que ça commençait à devenir un peu sérieux. On était jeunes, hein, mais bon, voilà.
Des questions à laquelle vous avez su trouver, auxquelles vous avez su trouver les réponses. Élodie, dans quelques instants, si vous le voulez bien, vous nous expliquerez comment vous avez réellement réagi à l'annonce de ce syndrome.
To fall in love with your mind, I don't want even mention the way your body perfectly designed, so fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level, and you're telling me you need more time. No crime, nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime, and if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on, girl.
Vous êtes à l'écoute de la matinée de France Bleu Creuse.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
L'histoire d'une fille qui aurait dû être un garçon. C'est le livre d'Élodie Lenoir, un livre aux éditions de La Martinière. Alors Élodie, il y a eu le moment de l'annonce du fait que vous ayez ce syndrome plutôt rare d'ailleurs. Donc je rappelle pour ceux qui viendraient juste de nous rejoindre sur France Bleu Creuse, ce syndrome fait que vous êtes née avec le patrimoine génétique d'un homme, mais que votre corps s'est développé comme celui d'une femme. À partir du moment où vous l'avez su, Élodie, alors que vous étiez déjà en couple, la réaction, qu'est-ce que ça a été ?
On est allée ensemble chez un médecin pour avoir ces réponses-là, savoir ce qui se passait. Et du coup, y a-t-il une solution ou pas? Y a-t-il un remède, un miracle, quelque chose? Et donc, c'est là que le médecin il s'est quand même rendu compte. Donc, je suis retournée voir le gynécologue qui m'avait fait l'échographie des années auparavant. Mmh. Et du coup, c'est là qu'il a compris. En fait, je pense que je n'avais en fait pas du tout compris ce que j'avais. Et il a pris tout le temps qu'il fallait pour bien m'expliquer de A à Z comment ce syndrome était arrivé, en fait, et pourquoi. Et donc, c'est là que j'ai compris que j'étais XY, en fait, XX comme toutes les autres filles.
Et aujourd'hui, vous avez donc vous avez 29 ans, m'avez-vous dit ?
Oui, tout à fait.
Comment se passe votre vie d'adulte, votre vie avec votre époux ?
En fait, ça se passe bien, hein, parce que maintenant, il y a eu beaucoup de d'eau qui a coulé sous les ponts. On a tout à fait accepté la situation. Enfin, en plus, c'est quand même un syndrome qu'il est assez facile de comment dire, pas oublier, mais bon, il a pas d'impact dans la vie au quotidien. Bon, il y a aucun problème. Après, bon, la différence, c'est que la différence par rapport à nos amis ou autres, c'est qu'on peut pas avoir d'enfants. On le sait depuis longtemps maintenant. On vit avec ça, quoi. Et en fait, on projette d'adopter.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'à ce moment-là, effectivement, on se tourne vers d'autres solutions ?
En fait, je pense que là, vraiment, ça dépend de chacun parce que, en fait, une vie est tout à fait possible sans avoir d'enfants. Nous, on souhaite quand même, tenter ça. Donc, on s'est tourné vers l'adoption parce que c'est la seule possibilité que nous avons pour nous. Et donc, on attend de voir ce que ça va donner. On espère beaucoup que ça puisse marcher. Et puis, si ça marche pas, on essaiera de trouver autre chose.
Tel que tu me vois d'Élodie Lenoir. Élodie, pourquoi avoir mis tout ça dans un livre ?
J'ai mis tout ça dans un livre parce que il y a beaucoup de raisons, hein, déjà. À titre personnel, parce que c'est une rencontre que j'ai faite avec Emmanuel Beloratsky et qui a été touchée par mon histoire et qui s'est dit que vraiment ça. C'était une histoire qu'il fallait éventuellement raconter. Pour moi, c'était important aussi de le dire parce qu'on est très, très seul dans cette situation. Enfin, au niveau du syndrome de résistance aux androgènes, on est très seul parce que c'est très rare. Mais même au niveau de l'intersexuation, on se sent assez vite seul. Aujourd'hui, on commence seulement à en parler. Mais quand j'ai appris, il n'y avait rien là-dessus. C'était quelque chose de très tabou sur lequel on ne pouvait pas vraiment s'exprimer sans honte, en fait, tout simplement. Donc, parce que ça crée une grosse confusion dans la tête des gens, quoi. L'intersexuation, ça interpelle beaucoup et ça pose beaucoup de questions qui, parfois, sont plus dues à l'ignorance. Mais bon, on n'a pas forcément envie de toujours tout expliquer de A à Z. Donc à un moment donné, c'est vrai que ça fait du mal d'être toute seule comme ça. Donc je me dis que j'aurais bien aimé trouver un livre comme celui-ci quand j'ai appris mon syndrome. Et puis à titre personnel, c'est aussi une façon pour moi de tourner la page, en fait, simplement sur le passé, sur ce passé de découverte. Et puis maintenant, envisager plus ma vie avec mon syndrome, avec l'acceptation de celui-ci. Et voilà.
Quand vous avez eu entre les mains votre livre, une fois qu'il a été réalisé, la première chose que vous êtes dit, c'est quoi ?
J'ai peur. Mais bon, c'est très vite passé parce que je suis quand même très contente qu'on ait fait ça. C'est déjà une super aventure. Ça m'a, déjà découvrir son histoire comme ça, ça fait quelque chose de bizarre. Et puis, beaucoup de fierté quand même aussi.
Votre sœur a lu l'ouvrage ?
Oui, ma sœur a lu l'ouvrage. Je l'ai fait lire à ma sœur, mes proches, ma famille, quoi. Mmh. Mes parents, mon mari. Bien sûr, là, c'était un projet qui, finalement, les implique aussi beaucoup. Mmh. Donc, ils ont été là, ils m'ont soutenue. Et ma sœur l'a lu, donc... Donc voilà.
Et alors ? Quels sont ses commentaires ?
Je pense que ça lui a fait bizarre aussi. Je pense que ça lui a fait bizarre aussi parce que les principaux commentaires, ça a été qu'il ne se rendait pas compte en fait de ce par quoi j'étais passée. Parce que je suis une personne assez enjouée et pas très. Je cache beaucoup en fait ma tristesse. Donc beaucoup ont quand même découvert un peu des passages que j'ai pu avoir dans ma vie et qui ont été durs, qu'ils avaient certainement envisagé, mais qu'ils n'avaient pas vraiment vu.
Élodie, nous allons vous retrouver une dernière fois pour aujourd'hui dans 3 minutes.
Le dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
France Bleu. France Bleu présente La Même Tribu volume 2. Le nouvel album des plus belles chansons d'Eddie Mitchell, reprise en duo avec ses amis. La Même Tribu volume 2. Eddie Mitchell chante avec Laurent Voulzy, Calogero, Véronique Sanson, Maxime Leforestier, Michel Jonas, Pascal Obispo et aussi Juliette Armanet, Thomas Dutronc et bien d'autres.
Le papa dit
Eddie Mitchell.
La Même Tribu, volume 2, un album France Bleu.
Toutes les infos sur francebleu.fr. France Bleu, partenaire de la chanson de l'année sur TF1. Vendredi 8 juin, vous avez rendez-vous pour une soirée exceptionnelle, présentée par Nikos Aliagas depuis les arènes de Nîmes. Quelle chanson succédera à En Direct, chantée par Amir? Découvrez dès maintenant sur TF1 et francebleu.fr les 10 titres en compétition pour la chanson de l'année. Ce vendredi 8 juin, c'est vous qui votez pour la chanson de l'année en direct à 21h sur TF1 et en simultané sur France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
France Bleu Creuse.
France Bleu. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got you. Wow, I feel nice. The sugar runs by. Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice.
James Brown.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Les dernières minutes en compagnie de notre invitée du jour, Élodie Lenoir, pour son livre « Tel que tu me vois » ou autre titre, « L'histoire d'une fille qui aurait dû être un garçon, car née avec un patrimoine génétique masculin ». Beaucoup peuvent penser, Élodie, que c'est très courageux d'avoir évoqué votre histoire, d'autant plus que vos parents, a priori, n'en parlaient pas beaucoup.
Mine de rien, mes parents sont pas très ouvert sur le sujet quand on essayait d'en parler auparavant, et je pense que ça a un peu libéré la parole de lire ça. En fait, tout simplement, j'ai été la première, on va dire, à me mettre à nu là avec ce livre.
Tout à fait.
Et en fait, ça leur a donné un peu envie de faire la même chose.
Et alors maintenant que ce livre est réalisé, qu'est-ce que vous en attendez, Elodie ?
Ce que j'attends, en fait, ce qui me ferait plaisir, c'est que des personnes, des femmes XY ou leur famille puissent les lire, que ça puisse les rassurer peut-être, je ne sais pas si c'est le mot, mais leur donner une certaine confiance aussi, puis au moins qu'ils se sentent moins seuls. J'aimerais que ce livre, en fait, qu'il fasse partie des voix, en fait, dans tout le débat sur l'intersexuation qui commence à naître. Et j'aimerais qu'il aille encore un peu plus loin, mais bon, c'est déjà un bon début. C'était important pour moi, c'est un peu ma pierre à l'édifice, on va dire, donc j'en attends pas plus que ça, en fait.
C'est déjà pas mal.
Oui.
Elodie, avec le recul, même si vous êtes loin d'être très âgée, avec le recul quand même, par rapport à vos 15 ans, s'il y avait, je sais pas, une situation, un sentiment que vous garderiez le plus de cette période de préadolescence et d'adolescence qui a quand même généré beaucoup de questions, ce serait quoi ?
Beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes, en fait. C'était le sentiment que j'avais. En fait, j'étais une personne qui doutait beaucoup. En fait, il fallait que j'arrive à trouver un sens à ma vie, en fait, comme ça. oui, c'est vraiment le mot, c'est le doute, en fait. J'avais un doute par rapport au fait à mon avenir. Je pense que ça, c'est le cas de beaucoup de personnes qui se découvrent stériles. À un moment donné, on se rend compte que là, il y a un problème et que ce qu'on avait envisagé et ce qui marche pour tout le monde, pour nous, ça marchera peut-être pas et il faut trouver quelque chose d'autre à faire. Et ensuite, j'avais l'autre effet, c'était le doute sur ma propre identité à un moment donné. Ça m'a vite quittée parce que j'ai été rassurée par mes proches, pour qui, en fait, le regard n'a pas changé. Mais pour moi, il y a eu ce moment de doute sur ma propre identité, sur est-ce que je suis légitime de porter des robes ou
oui,
pas.
Bien sûr. Oui, tout à fait.
C'est une grosse remise en question qui tombe jamais trop au bon moment, je dirais, mais là... je me sentais vraiment seule et je doutais beaucoup.
Aujourd'hui, rassurez-nous, des robes vous en portez ?
Avec plaisir, oui. Ah oui, non, c'est... Non, non, voilà, ça, c'est un... En fait, c'est quelque chose d'assez traumatisant quand ça nous arrive parce que on s'y attend pas. J'ai toujours été une fille et à un moment donné, quand on nous dit qu'on est XY et qu'on a un Y et que même si c'est tout petit, c'est dans les chromosomes, donc ça se voit pas, mais ça... Ça perturbe énormément, ça m'a beaucoup perturbée. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a été assez intense quand même.
Tel que tu me vois, Elodie Lenoir, aux éditions de La Martinière. Je vous laisse le mot de la fin, Elodie, pour aujourd'hui.
Oula.
Non, c'est sans danger.
que le livre, qu'on en parle et que les personnes qui se reconnaissent dans ce livre, soit parce qu'elles connaissent quelqu'un, soit parce qu'elles sont directement concernées, puissent le lire, qu'elles y trouvent du réconfort, j'espère, et du courage.
En tous les cas, du courage, vous n'en manquez pas. Merci beaucoup, Elodie. Et pour tout le monde, je vous redonne les références de ce livre, Tel que tu me vois, aux éditions de La Martinière.
Le dossier du jour, avec Granit et Marbre Mourier. Tout pour le cimetière. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Demain, c'est Jean-Marc Père, Fédération de chasse de la Creuse, qui sera notre invité. Des questions sur le permis de chasse à 0 euros, mais aussi des infos sur le nouveau mode de gestion du sanglier. Des infos toujours sur les arrêtés préfectoraux concernant la chasse d'été. Toutes vos questions à notre invité demain matin à partir de 9h.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, à retrouver sur francebleu.fr.